La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger. Nous sommes la famille à qui tu as donné la vie. À toi soit la gloire en Jésus-Christ. Alors je vous propose de chanter le psaume 107. Effectivement, on n'a pas eu le temps ce matin d'afficher les cantiques sur les tableaux. Donc en fait, ça sera la surprise. Je vous les annoncerai au fur et à mesure. Alors là, je vous propose de chanter donc le psaume 107 dans le psautier français, « Louez Dieu pour sa grâce », les strophes 1, 2 et 4 du psaume 107. Vous pouvez prendre place. Alors bienvenue à chacune et à chacun dans cette maison. Bravo d'avoir franchi donc les éléments déchaînés pour venir. tout particulièrement bienvenue à Mylène Ilou qui a demandé donc à recevoir le baptême aujourd'hui. Bienvenue aussi à notre organiste. Nous avons embauché l'organiste de l'église de Bon Secours qui est venu à notre secours pour aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce temps de culte. Donc merci beaucoup à elle d'être ainsi venue nous aider. Nous poursuivons en écoutant ce que Dieu nous propose de vivre selon les paroles de Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne trahiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute la loi. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors face à cet idéal infini de l'amour, nous pouvons reconnaître devant Dieu notre désir d'être guéri par lui. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur ce psaume de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Car oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé. Mais que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui, tout tranquillement, la certitude de leur pardon et la grâce d'une vie renouvelée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait maintenant la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons notre reconnaissance.
pouvez prendre place. Alors Mylène, bienvenue parmi nous. Bienvenue à ceux qui vous accompagnent. Merci à vous pour votre ouverture, donc d'accompagner Mylène, même si ce n'est pas votre foi à vous, mais vous le faites par amitié. Vous vous mettez ici. Voilà. Donc merci d'avoir choisi l'oratoire. C'est une joie, c'est un grand honneur pour nous. Ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier, Mylène. Avant même que vous le cherchiez, eh bien Dieu était déjà près de vous, vous accompagnait pas à pas sur votre route, et rien ne vous privera de cet amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Alors vous ne demandez pas le baptême à la légère, ça fait plus d'un an que vous y pensez, que vous réfléchissez, que vous lisez la Bible, que vous priez, que vous discutez avec des amis, avec vos proches. Et puis comme vous sentez que cela vous fait du bien, cette démarche, cela vous a donné à réfléchir et à chercher un lieu, des personnes, une église. Et vous voilà, bienvenue. Alors c'est tout à votre honneur d'avoir fait ce cheminement, parce que rien ne vous y obligeait, bien sûr, à aujourd'hui, à notre époque. C'est vraiment, je trouve, pour ça une belle époque. C'est vraiment un acte de sincérité, de liberté, un acte de choix, d'intelligence, d'engagement. Alors bravo pour cette démarche. Tout ce chemin parcouru jusqu'à présent nous porte à la joie, à la reconnaissance, nous rend optimistes et joyeux. Ce chemin est ouvert devant vous. Dieu sera avec vous, vous accompagnera tout au long de ce chemin qui se poursuit bien sûr au-delà du baptême. C'est plus une pierre blanche pour marquer le début de ce chemin. Nous prions Dieu. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie. Qu'avec le Christ, Mylène reçoive de vivre, d'être heureuse, d'être source de bien, d'amour et de paix autour d'elle. Amen. Mylène, désormais, chaque jour, ce baptême vous rappellera que vous avez une importance infinie aux yeux du Créateur de la vie et qu'il vous accompagnera sur le chemin de votre route. Ce baptême vous appellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ, en qui vous est offerte la vie, la joie d'une vie créatrice et d'un cheminement confiant grâce à la présence du Saint-Esprit. Et puis à nous tous, frères et sœurs, ce baptême nous rappelle la grâce que Dieu nous fait en nous donnant aussi son amour pour nous, son enfant bien-aimé. C'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, nous entourons Mylène. Mylène, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Mylène, que Dieu vous bénisse et vous accompagne sur le chemin de votre vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. Alors pour l'instant, vous n'avez pas dit un mot, comme si vous étiez baptisé de force. Et dans un sens, c'est vrai que Dieu nous aime de force. Ce n'est pas notre liberté à nous, c'est sa liberté à lui. On en fait ce qu'on en veut. Et c'est bien ça qui est beau, c'est finalement quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de chantage dans cet amour de Dieu. Et dans la liberté donc qu'il nous donne par son amour d'entrer ou de ne pas entrer dans son alliance, aujourd'hui, Mylène, vous répondez à l'amour de Dieu par votre foi en lui, à ce Dieu qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée ». Vous lui répondez dans votre cœur et aujourd'hui dans son Église, dont nous sommes un simple échantillon, dans cette large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu au-delà des chapelles particulières, vous lui répondez « Tu es mon Père que j'ai dans les cieux. » Alors je vous propose de vous unir à la confession de foi qu'a préparée Mylène. Et comme ça sera notre confession de foi pour notre Église pour ce dimanche, je vous propose de vous lever pour vous associer du cœur à ce qu'a préparé Mylène. Merci.
Je parle comme ça. Bonjour, je m'appelle Mylène. Dieu m'a beaucoup apporté dans ma vie. À partir du moment où j'ai décidé d'étendre ma communication avec lui. L'amour du Seigneur est sans condition. Il ne va pas juger ou punir. Il va seulement écouter et même compatir. Son amour est si grand qu'il est capable de donner un peu de lui-même à chacun d'entre nous. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. C'est pour cela que la notion d'aider et d'aimer son prochain me semble primordiale. Nous sommes la création de Dieu et nous faisons partie de lui. Il faut aimer Dieu, mais également s'aimer entre nous. Ce qui m'a le plus attiré dans la religion, c'est cet amour profond et cette idée de faire le bien. Cependant, faire le bien n'est pas toujours chose aisée, et quelquefois, les solutions qui s'offrent à nous sont limitées. Parfois même, on ne peut rien changer, alors qu'on le voudrait. Mais après tout, nous ne sommes que des humains. Nous nous devons, ne serait-ce que d'essayer, de faire le bien, à notre échelle. Car lorsque nous essayons, à partir de ce moment-là, nous sommes déjà sur le bon chemin, celui que Dieu nous montre.
Merci Mylène pour ce chemin.
Oh Dieu, nous...
à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place, sauf Mylène, que je garde encore ici quelques secondes pour l'accueillir. Alors Mylène, vous avez reçu donc le baptême, signe de l'amour que Dieu vous a manifesté en particulier en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi et cela fait finalement alliance, ce double oui, celui de Dieu pour vous et celui de vous vers Dieu, cette double bénédiction. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne, de l'Église universelle, qui dépasse les églises particulières, les pays et les générations. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes, effectivement, jour après jour. Merci d'aimer, de garder et d'épanouir notre personnalité, d'y insuffler la paix, le bonheur et une passion pour faire ce que nous pouvons pour rendre autour de nous la vie encore un peu plus belle pour ceux que nous pensons nous être confiés. Alors notre Père, merci pour Mylène que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Fait que son témoignage, ses gestes, sa personnalité rayonnent de la plus belle des façons en ce monde. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Un grand merci, Mylène. Thank you.
Pour ce dimanche, je vous propose d'ouvrir la Bible au premier chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, à partir du verset 35. Le lendemain du baptême de Jésus, donc, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna. Voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui s'est traduit par « maître », « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était comme une dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Nous chantons le psaume 62b, donc dans le psautier français. « En toi, mon Dieu, toi seulement », les trois strophes de ce psaume 62b. Prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui. Permets que dans ce témoignage que nous avons entendu, nous puissions découvrir quelque chose qui vient de toi et que tu veux pour nous. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. C'est notre espérance. Afin que l'occasion de notre méditation, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles, nos actes et notre vie tout entière. Nietzsche était un voyageur parcourant l'Europe dans un incessant zigzag. Un peu comme Jésus d'ailleurs, qui lui aussi était un adepte de l'inlassable voyage. Jamais en place. Ou en place dans le voyage. Alors pourquoi est-ce que Nietzsche voyage ainsi ? Peut-être à cause de cet enthousiasme qui l'habitait, et puis aussi de cette souffrance qui le touche, ne le laissant pas en paix. Alors son voyage n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel et intellectuel, religieux et philosophique. Fils de génération de pasteurs, il est d'abord très engagé dans une foi fervente. Son itinéraire le fait dire ensuite qu'il est athée, mais athée de quel Dieu ? Pour chercher quoi, en réalité ? Car il ne cessera jamais de chercher, il ne cessera pas non plus de placer la religion au cœur même de son travail, et il gardera un lien très profond avec la personne de Jésus. Nietzsche est à l'image de ces hommes que nous voyons au début de l'Évangile selon Jean, et qui, voyant Jésus marcher, sont mis en route, à leur tour, à leur façon. Ces hommes à qui Jésus pose cette question essentielle, « Que cherchez-vous ?» Ces hommes qui lui répondent, « Où demeures-tu ?» Intrigués par cette profonde solidité du Christ, qui pourtant sans cesse se déplace et échappe. Dans ce début de l'Évangile, selon Jean, deux hommes ont été mis en route, dont un seul est nommé, André, frère de Simon-Pierre, nous dit le texte. L'autre homme est anonyme. Il est une invitation pour le lecteur. C'est nous, ce deuxième homme, que l'Évangile invite. Cet homme anonyme, c'est aussi Nietzsche, dans un sens. Il est moi. Il est quiconque se sent concerné par ce Jésus et se laisse mettre en mouvement. Ce Jésus qui sans cesse se déplace et qui, en même temps, est si profondément à sa place. L'Évangile nous invite dans son récit, espérant que nous nous éveillerons et qu'enfin nous trouverons notre place dans le mouvement. Étrange mais belle et profonde entrée en matière de cet Évangile suivant le Christ. Ce très court récit pourrait suffire presque pour dire ce à quoi l'Évangile nous appelle. Alors à deux ou trois détails près quand même qui méritent qu'il y ait derrière une trentaine de pages. Nietzsche, lui, s'est senti concerné par Jésus. Et il va voyager avec une incroyable ardeur dans ses recherches, en particulier en ce qui concerne Dieu, la morale, la religion. Et nous pouvons en prendre de la graine, bien entendu, pas pour traverser les profonds tourments qui étaient ceux de cet homme, mais quand même, tant qu'à faire d'être un homme souffrant, il a fait vraiment quelque chose de ses tourments. Et son combat contre le christianisme a porté ses fruits et peut encore en porter, en nous faisant sortir de bien des ornières. Dans un sens, Nietzsche est un prophète parlant des travers et des dangers, des erreurs et même du péché du christianisme dans ce qu'il peut avoir de nocif et de stérilisant. À nous d'en tenir compte avec humilité et avec bienveillance, avec sagesse. En nous mettant en route, en nous convertissant, et que notre foi et même notre religion soient source de vie, de mouvement et d'être, comme le dit l'apôtre Paul quand il parle aux philosophes d'Athènes, et non source de mort. Car effectivement, c'est normal que la religion puisse être l'un comme l'autre, source de vie ou source de mort, car toute réalité puissante est à la fois une force et un danger. Même un marteau est ainsi. Nous avons dans ce récit de l'Évangile la première rencontre de Jésus avec son public, si je puis dire. Alors qu'est-ce qui caractérise sa façon d'être dans cette première description ? Quelques verbes d'action qui sont comme un portrait, comme un programme. D'ailleurs, ces verbes sont au participe présent comme décrivant l'état de Jésus. D'abord, il est en mouvement. L'Évangile ne nous dit pas vers où il allait. Ce qui importe, c'est le fait d'être en voyage. Ensuite, il se convertit. C'est ce que dit cet étonnant Jésus se retournant, là aussi, c'est un participe présent. Jésus se convertissant. Enfin, troisième façon d'être essentiel de Jésus est de voir les deux hommes, d'un verbe fort que l'on pourrait même traduire par contempler. Contempler le mouvement qu'il a induit chez ces deux hommes. Alors cette façon d'être qu'a Jésus nous est ici proposée par l'Évangile. C'est un voyage, c'est un mouvement de conversion et c'est l'observation de ce que notre mouvement induit chez les autres. Être en mouvement, évoluer, se convertir, observer, c'est ce que nous essayons de faire dans la méditation des Évangiles. Mais comme les deux hommes se stimulent mutuellement pour se mettre en route, nous pouvons nous aider de la parole, du témoignage, de la vie d'autres personnes. C'est ce que nous faisons en nous rassemblant, par exemple, le dimanche matin, dans l'assemblée que nous formons, par des discussions, par des lectures. Ces hommes mis en mouvement par Jésus peuvent faire penser à Nietzsche. Alors pourquoi pas cheminer un peu en s'aidant de lui ? Il est un peu prophète à sa façon. Un prophète est fait pour être cru, mais pas en tout, bien sûr. Car même un vrai prophète, il y en a aussi des faux, mais même un vrai prophète annonce aussi des choses qui ne se réalisent pas, des choses qui sont fausses. Par exemple, quand le prophète, et c'est souvent le cas dans la Bible, annonce, par exemple, que Dieu, cette fois-ci, en a assez, qu'il va venir nous écraser comme un exaspérant et même un dangereux moustique. C'est un grand classique dans la Bible, tous les grands prophètes le font et la plupart du temps, après que le prophète a annoncé cela bien en détail, que maintenant c'est fini, la suite de l'histoire montre que non, que finalement encore et toujours Dieu a pardonné, a sauvé et va donner la vie. C'est ce qui fait d'ailleurs que le prophète Jonas refuse de faire le prophète quand Dieu l'appelle. Effectivement, à la fin de l'histoire, après avoir obligé Jonas à annoncer que tout serait détruit, Dieu se convertit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas, nous dit le récit. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité, il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant, partant en voyage à Tarsis. » Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui se convertit du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, est-ce que tu fais bien de t'irriter ? Et donc le prophète n'a pas à être entièrement cru, bien sûr. Mais nous pouvons recevoir sa parole comme une invitation à être, en voyageant, en se convertissant, et puis en observant ce que donne notre vie. Ce n'est évidemment pas à la lecture de Nietzsche en particulier que je veux vous convertir, et il n'est qu'un exemple, et encore moins vous inviter à perdre comme lui ce lien très profond avec un Dieu vivant que l'on tutoie dans la prière, comme le fait Jésus-Christ. Mais il me semble utile d'entendre dans la révolte d'un homme comme Nietzsche une énergie vitale puissante qui n'est pas étrangère à ce qui animait le Christ. Une démarche tournée vers l'avenir, une démarche courageuse cherchant à dépasser tout ce qui n'est pas authentique. Les faux dieux, ils sont morts. Les fausses sécurités, elles sont illusoires. Les présupposés moraux, religieux, considérés comme une vérité ultime, ils sont nocifs. Et puis déboulonner tous ces faux dieux qui nous parasitent, chercher à se dépasser soi-même, se tourner vers l'avenir, se convertir, tenir compte de ce que nous induisons chez les autres. Alors le début de cette histoire évoque Jésus qui avance seul. Je l'imagine ainsi. Finalement, un peu comme ce personnage, peut-être un peu ombrageux de Nietzsche, tout tendu intérieurement d'une formidable énergie, il marche. élaborant une autre relation à Dieu, une autre relation au monde et aux personnes, une autre façon de comprendre la souffrance de l'homme, non comme une punition, mais comme une souffrance à soigner. Un voyage qui commence, un élan de courage pour s'élancer seul, en pleine sincérité, prêt à se réviser. Un prophète est souvent seul, en fait, et Jésus est tout seul. Les deux premiers disciples de Jésus, eux, se mettent à deux pour avoir le courage de se mettre en route. On a le droit aussi. Ils se mettent même à trois, finalement, puisque c'est ce mouvement de Jésus qui les met en route et qu'ils s'y associent. Alors en Nietzsche, il y a quelque chose de ce courage de Jésus pour forcer l'obstacle, en particulier cet obstacle si fort, car il est intérieur. Et cet obstacle, c'est ce qui a toujours été considéré comme une vérité intouchable, et puis s'avancer en terre inconnue. Alors ce n'est pas si simple d'avancer en terre inconnue. C'est même en partie tragique, car ce voyage vers un idéal a toujours quelque chose de désespéré. C'est un regard dans une direction, c'est un pas en avant, peut-être même quelques pas en avant, quelques personnes mises en route, comme ici, dans ce récit de l'Évangile. Mais le but du voyage est si loin, il est inatteignable. Nous ne serons jamais au but du voyage engagé, et plusieurs fois nous voyons Jésus être éprouvé, déçu, dans un profond sentiment d'angoisse même, se retirant alors seul, faisant une pause dans ses incessants zigzags pour s'arrêter, prier Dieu, ce Dieu qu'il appelle mon Père et qu'il tutoie. Cette force-là va manquer à Nietzsche peut-être, qui sait. Mais oui, le but du voyage nous échappe, et ce n'est pas un problème dès lors que cette autre illusion a été vaincue, celle de penser un jour toucher au but. Jésus va vers les pauvres et pourtant il annonce « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette réalité le dépasse et il le sait. Elle nous dépasse, nous mourrons. Le pauvre que nous aurions pu aider mourra aussi. Il y aura toujours des pauvres demain et dans 1000 ans. Et pourtant, le petit pas fait pour rendre service vaut le voyage. De même, dès les premiers chapitres de la Bible, la Genèse met en scène Dieu voulant créer une humanité qui serait très bonne. Mais rapidement, Dieu doit se résoudre à assumer le fait que l'homme a une part de méchanceté. Et malgré cela, Dieu le bénit et fait alliance avec cet homme tel qu'il est. L'apôtre Paul sait bien, lui aussi, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit-il, en citant le psaume. Et pourtant, lui aussi, il avance. Paul sait que nous ne voyons que confusément, comme à travers un miroir trouble. Et pourtant, il regarde, et pourtant il parle de ce qu'il voit ainsi, de Dieu, de l'homme et de la vie humaine. Donc la Bible nous dit la valeur de l'enthousiasme de ces hommes pour dépasser les obstacles et développer la vie, l'augmenter. Cela me semble beau, courageux et vrai. Le fait que le but soit inatteignable est même libérant dans un sens. Cela veut dire que c'est le pas qui vaut le voyage. Non seulement notre pas, puisque de toute façon, nous n'arriverons pas au bout. Jésus peut prendre le temps alors de s'arrêter dans ses pas et se retourner. Et c'est aussi une conversion. Même son pas en avant n'est plus le tout, car son pas devient trois pas dès lors que deux personnes le suivent, sont mises en route. Alors est-ce qu'elles sont vraiment mises en route? Pas certainement. Seulement à condition que leur pas soit vraiment leur pas à eux et non pas simplement ses pas à lui. Car manifestement dans ce voyage, c'est l'authenticité qui importe. C'est pourquoi Jésus leur demande « Que cherchez-vous ?» Vous, en fait, en réalité. Excellente question à se poser régulièrement pour avancer. Certains ont besoin de parcourir le monde en zigzag frénétiquement pour se poser cette question et commencer à apporter sa réponse, comme Démocrite qui, paraît-il, passa 80 ans d'une vie qui en fit plus d'une centaine, ou bien d'explorer de multiples voies. Certains passent par de multiples religions, philosophies, recherches. D'autres se posent cette question dans un ermitage, comme Wittgenstein qui se construit une cabane au bord d'un lac au fond de la Norvège, ou Diogène dans son tonneau, ou Montaigne dans sa bibliothèque toute ronde. Alors que cherchent les deux disciples de Jean-Baptiste? Ils viennent de recevoir le baptême, cette plongée dans le pardon et la tendresse de Dieu. C'est extraordinairement libérant, cette plongée dans une tendresse radicale et inconditionnelle de Dieu. C'est la fin du moralisme, c'est la fin de tout chantage religieux, de toute chose qui nous serait imposée, de devoir croire ceci, faire cela. Mais ensuite, ils sont comme les Hébreux, arrachés des griffes du Pharaon, mais face au désert, ne sachant que faire de cette liberté nouvelle, où diriger leurs pas, comment avancer. Pour prendre des forces au commencement de leur voyage, les Hébreux reçoivent la mission de manger l'agneau pascal. C'est à cela que fait référence le « Voici l'agneau de Dieu » de Jean-Baptiste désignant Jésus. Et c'est le mode d'emploi de l'Évangile, se nourrir du personnage de Jésus, de sa dynamique de vie, de mouvement et d'être. La mâcher, la digérer, s'en nourrir, y prendre une force pour se lever, se mettre debout et faire le premier pas du voyage dans la vie, à notre façon. Et donc les deux hommes se nourrissent effectivement de son mouvement, de son retournement, de son regard, mais pour la suite. Comment faire pour que suivre Jésus ne soit pas simplement du mimétisme, une soumission qui serait une autre forme, en fait, d'esclavage? Vient alors son « Que cherchez-vous ?» Que cherchez-vous, vous? Ils attendent de lui une parole d'enseignant, une parole du type de celle de Moïse, de maître, une loi morale, un code religieux, une théologie peut-être, qui leur indiquerait enfin le vrai chemin. Ils veulent du définitif, du qui demeure pour toujours, la vérité ultime. Jésus les invite plutôt à une expérimentation. Ceux qui demeurent en Christ, ils ne vont pas l'entendre de sa bouche, et le récit qui nous est donné ne nous en dit rien. Mais le récit nous dit qu'ils vont voir ce qui demeure, en l'accompagnant dans sa façon d'être. Cette vérité est plus effectivement une façon d'être, un mouvement, une conversion, une façon de regarder l'autre. Alors le texte nous dit que c'était comme une dixième heure. Lu littéralement, cela veut dire que c'est l'heure du goûter pour les enfants, l'heure du thé pour les Anglais, l'heure du pastis pour les Marseillais, l'heure du décide fendant pour les Vaudois. Non, alors rien à voir avec tout ça. Bon, bien peut-être, parce qu'on a le droit aussi de voir arriver l'heure du goûter. Mais pas nécessairement. L'heure du chiffre 10, c'est l'heure d'obéir à la loi et de faire ce qui est juste et bien. Mais quelle loi? Celle de Moïse dont Jean-Baptiste vient de faire allusion? Non. Celle discernée en vérité en réponse à ce « que cherchez-vous ? Que cherches-tu, toi ?» L'heure d'un mouvement vers Dieu, mais quel Dieu? Celle d'un retournement, d'une conversion? Celle d'un regard, d'un geste vers l'autre? Mais quel autre? Comment? Alors ils vont effectivement le faire ou pas le faire. En ce qui concerne André, oui, il va aller vers son frère et puis vers d'autres ensuite, nous dit-on. Mais pour le disciple anonyme, pour nous, la question reste ouverte. L'histoire reste à écrire. Voyageant ou non, vers où? Se convertissant ou non, et à quoi? Regardant, contemplant le bien ou le mal que nous produisons sur notre entourage. En Jésus, nous voyons une profonde détermination à avancer et à faire avancer. D'où lui vient cette passion? Il la puise, il la boit, il la respire dans son tête-à-tête avec celui qu'il appelle mon Père et à qui il parle comme face à face, cœur à cœur. Chez Nietzsche, on a l'impression que le sentiment de l'absurdité de ce voyage auquel il croit pourtant tellement le conduit au désespoir et à la destruction de soi. Sans doute était-il déjà souffrant avant d'avancer dans cette recherche. Mais je pense que cela ne l'a pas aidé d'aller trop loin dans l'épuration de ce qu'est Dieu. Alors il est utile, oui, de déboulonner les faux dieux, de montrer qu'ils ne sont pas vivants. Il y a là un geste essentiel de conversion pour bien saisir que Dieu est au-delà de l'idée que nous nous faisons de lui, que ce Dieu qui est au-delà de Dieu, du mot Dieu. Certes, Dieu n'est pas au sens littéral, au sens commun du terme, ni un être, ni une personne, ni amour, ni tendresse, ni créateur. Mais pourtant, c'est comme cela que nous expérimentons Dieu dans ce voyage. Oui, comme une personne, comme un père et une mère, comme un amour, comme une tendresse, comme un créateur de notre vie, de notre mouvement et de notre être. Dieu est à la fois une personne et plus qu'une personne. Il est à la fois un être et la source de l'être. Il dépasse tout nom et pourtant il a un nom. Et à la suite de Jésus, nous pouvons continuer à lui dire « tu » et à compter sur lui comme sur un compagnon de voyage proche et fidèle. Il l'est et bien plus encore. Amen. Je vous propose de chanter, donc dans le petit recueil bleu, louange et prière, le cantique numéro 315. L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Donc les trois premières strophes de ce cantique 315, inspiré donc du psaume 36. pouvez prendre place. Alors, note en bas de page de ce que je viens de vous raconter, il y a le livre de Philippe Godin sur la religion de Nietzsche, très inspirant, et puis si vous l'achetez, vous pouvez même le faire dédicacer parce que Philippe est souvent là. Et puis, les passages de Paul Tillich, donc dans Le Courage d'être, sur Nietzsche, bon, livre un peu plus difficile d'accès. Et puis bien d'autres choses, bien sûr. Alors, d'abord, notre président a une bonne nouvelle, et même trois, à nous annoncer.
Faut appuyer sur le bouton en caoutchouc qui est un peu en haut.
Bonjour à tous. Excusez ce petit retard technique. Alors, effectivement, une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles. Le pasteur Richard Cadou s'est installé et s'installe au cours de ce mois de juillet dans son appartement de la rue de Rennes. Je lui ai remis les clés hier à lui et à son épouse et nous aurons le plaisir de l'entendre à partir du 1er août. Comme promis, la commission qui était en charge de recruter deux organistes titulaires à la suite du départ de Jean-Dominique Pasquet a statué et a présenté ses conclusions au conseil presbytéral qui s'est réuni mercredi dernier, 28 juin. Je remercie toutes celles et tous ceux qui, au cours du mois de juin, ont donné leurs sentiments sur les quatre finalistes. Sur 27 candidats, nous avons eu 27 candidats, les quatre finalistes qui avaient été retenus et qui ont joué au mois de juin, bien, vous avez pu exprimer votre sentiment sur chacun d'eux et vous avez été nombreux à le faire et cela a aidé grandement la commission. Donc, le conseil presbytéral a retenu à l'unanimité d'ailleurs la proposition que lui a fait la commission. Deux organistes titulaires ont donc été nommés. Il s'agit de Madame Sarah Kim et Monsieur David Cassan, qui sont organistes titulaires, et puis deux organistes suppléants, Aurélien Peter, que vous connaissez bien, et Alexandre Korovitch, que vous connaissez aussi. Merci donc à vous tous d'avoir aidé à ce choix, et je suis sûr que cette nouvelle équipe, talentueuse et jeune, avec le chef Fabien Aubé, vont contribuer au rayonnement musical de l'oratoire, parce qu'ils vont très vite préparer une politique musicale et des événements musicaux pour le rayonnement de l'oratoire. Voilà la bonne nouvelle que j'avais à vous donner. Merci de votre attention et puis d'avance, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances.
Merci beaucoup, André. Alors, il y a des routiers, c'est-à-dire des éclaireurs aînés, qui font une vente de gâteaux à la sortie. Effectivement, ils vont partir en Arménie pour un projet humanitaire et ils ont besoin effectivement de compléter un peu leur financement ainsi. Demain soir, lundi, à 19h15, il y a Christophe qui réunit le groupe biblique, le groupe hébreu biblique Apprentissage. Donc c'est en face aux quatre rues de l'Oratoire. Et puis ensuite, je pense que le groupe reprendra au début de l'année scolaire prochaine. Alors, il faudra bien surveiller si vous voulez apprendre l'hébreu et ne pas rater le début, parce qu'effectivement, surtout le début dans ce genre d'aventure, doit être pris. Mercredi, il y a le début de cette série des mercredis bibliques de l'été, qui a été mise en place déjà depuis quelques années, donc de midi et demi à 1h30, de 12h30 à 13h30, en rez-de-chaussée du 4 rue de l'Oratoire. On a un temps biblique, donc tous les mercredis, autour d'un café. Vous pouvez apporter votre sandwich ou l'avoir mangé avant, comme vous voulez. Le thème de cette année, c'est rendre visite. Donc ce mercredi, c'est moi-même qui vais l'animer. Ensuite, il y aura un peu de Régina Muller, après encore un peu de moi-même, et puis au mois d'août, ça sera Richard Cadou. Donc les épisodes sont faits pour être des épisodes indépendants, mais dans ce thème. Voilà. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est une façon de remettre dans notre vie les choses en perspective. Et puis ça permet aussi, très concrètement, à l'Église d'exister et d'accompagner, en notre nom à tous, les familles sans condition de ressources. Je vous propose de vous unir dans la prière en suivant du cœur cette prière d'Eti Ilsoum, une jeune femme juive d'Amsterdam pendant la guerre. Alors je vous propose de vous laisser inspirer par cette prière, dans notre prière, en communion avec tous les désespérés de ce jour, quelle que soit la cause de leurs maux. Ce sont des temps d'effroi, Seigneur, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrances humaines défilant sans arrêt devant moi. Alors je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh, une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela me demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien te garantir d'avance. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te faire émerger dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation, finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes de ce que nous avons essayé de faire. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que c'est à nous de t'aider et à défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Il y a des gens, le croirait-on, qui au dernier moment tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillères en argent, au lieu de te protéger, toi, mon Dieu, en eux-mêmes. Et il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n'est plus que le réceptacle de 1000 angoisses et de 1000 haines. Ils disent « Moi, je ne tomberai pas sous leurs griffes ». Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne, tant qu'on est dans tes bras, mon Dieu. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec toi, dans un avenir proche, t'empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sûrement des moments de disette en moi, mon Dieu. Des moments où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement. Mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi. Et je te resterai fidèle et je ne te chasserai pas de mon enclos. Je ne manque pas de force pour affronter la grande souffrance, la souffrance héroïque, mon Dieu. Je crains plutôt les 1000 petits soucis quotidiens qui vous assaillent parfois comme une vermine mordante. Mon Dieu, je veux prendre soin de toi. Je ne t'offre pas seulement mes larmes et mes tristes pressentiments. Je veux t'offrir toutes les fleurs rencontrées sur mon chemin. Et elles sont légion, ces fleurs, crois-moi. Je veux te rendre ton séjour ici, en moi, le plus agréable possible. Et pour prendre un exemple au hasard, enfermé dans une étroite cellule et voyant un nuage passer au-delà de mes barreaux, je t'apporterai ce nuage, mon Dieu, si du moins j'en avais la force. Alors je ne puis rien te garantir d'avance, mais les intentions sont les meilleures au monde. Tu vois, mon Dieu, maintenant, je vais me consacrer à cette journée. Je vais me répandre parmi les hommes d'aujourd'hui. Et les rumeurs mauvaises, les menaces m'assailleront comme autant de soldats ennemis devant une forteresse imprenable. Alors oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas enfermer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez maintenant la bénédiction de Dieu qui vous est donnée en particulier, au singulier, comme nous l'apprend Moïse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accompagne. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Demeure par ta grâce avec chacune et chacun, ô Dieu sauveur.